Bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes notre demi-heure citoyenne et à l'attente de vos questions éventuelles.
On pourrait remercier la belle victoire hier soir en hockey qui s'est déroulée à Megève quand même. Nos jeunes se sont très très bien comportés. Je pense qu'on pourrait avoir une petite pensée pour eux et les féliciter tous ensemble d'ailleurs. Parce que c'est quand même contre Rouen, ça a été un très beau match et une belle victoire. Et également, passer la parole à Laurent qui pourrait nous donner 2-3 informations sur l'avancement pour l'implantation des jeux pour les jeunes pour cet été. C'est en cours et je pense qu'il peut nous donner 2-3 précisions. Je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes.
Oui, bonsoir, Laurent Soquet. Donc effectivement, la partie d'implantation pour les jeux, pour les petits, se fera donc sur le long du... Je vais dire bac à sable, en fait, c'est le paddock. Merci. Le paddock situé avant le palais des sports. Donc là, le long du paddock, eh bien, il y aura partie de jeux installés pour les petits. Et pour les adolescents, donc il y aura également une activité qui leur sera réservée sur la patinoire du Palais des Sports, une implantation qui permettra de conserver la patinoire l'hiver et autrement l'été de garder des terrains de boules. C'était les jeux qui étaient situés aux côtés du Tin House, le long du Palais des Sports, le mini terrain de foot, voilà.
Oui, il faut dire qu'on va réinvestir dans un mini terrain de foot neuf sur la place de la patinoire. Oui.
Laurent Soquet également. Donc, juste pour vous informer qu'une campagne de nettoyage des parkings va commencer. Donc, soyez vigilants. Essayez de laisser vos véhicules pas dans les endroits qui sont prévus au nettoyage. Ça va être à tour de rôle, les 5 parkings. Dans un premier temps, une balayeuse, et puis dans un second temps, au Karcher. Merci de faciliter la tâche aux agents des services techniques.
Bonsoir, Christine Soquet-Claire. Je ne suis pas allée aujourd'hui sur le site de la mairie, mais quand on va sur le site de la mairie, il n'y a pas de maire à Megève. Alors, c'est un petit peu bizarre, je ne sais pas. Il y a les adjoints, mais... Il n'y a pas de maire. Voilà, je ne sais peut-être pas me servir, mais pourtant, si, quand même. Voilà.
Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'aller voir le site, là. Mais bon, on va remédier, c'est vrai. Il n'y a pas de maire. Bon, ben, on va essayer de trouver un maire. Bon, il y a peut-être eu un petit délai de ma part pour la photo, je reconnais, mais elle est faite, là, maintenant. Ah, il n'y a pas de photo ni des uns et des autres. Bon. Ça permet de rappeler tout le monde est allé faire sa photo pour pas retarder. Ah, il y a encore des retards.
Marie Muffa, est-ce qu'il y a des changements pour les parkings payants, est-ce que... Voilà, simplement savoir.
Alors, nous sommes dans l'étude de justement du parc, des parkings payants. A priori, il se dessinerait que les parkings resteraient payants, parking souterrain en zone 1 et le palais des sports, et le reste des autres parkings seraient gratuits cet été. En aérien, hein. Aérien, sauf la zone 1. Le palais des sports a un prix très, très, très bas. Et les parkings souterrains payants, bien entendu.
Oui, donc pour compléter ce que Madame le maire vous a dit sur les stationnements, c'est évident qu'on va retravailler, on va simplifier le nombre de zones. Vous savez tous qu'aujourd'hui, il y avait 5 zones de stationnement. C'était assez compliqué à avoir une lecture. Donc l'idée, évidemment, c'est de simplifier ce nombre de zones Évidemment que les parkings couverts resteront avec leurs abonnements. On ne pourra pas revenir dessus. Il y a des gens qui ont payé leur abonnement jusqu'au 31 décembre. Et l'idée, c'est qu'il y a quand même une prestation offerte quand on stationne dans ces parkings couverts. Donc l'idée, c'est pas de revenir sur les tarifs, même abonnement, sur les parkings couverts. C'est bien sur les parkings aériens, aux proximités des remontées mécaniques. On peut imaginer le secteur du Mont d'Arbois, le secteur de Rochebrune ou le secteur du Jaillet. Évidemment, revenir sur des gratuités, puisqu'il faut absolument garder de l'activité économique auprès des remontées mécaniques. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les parkings payants sur le secteur du Jaillet ont vraiment pénalisé la télécabine.
Bonsoir. Alors, c'est au sujet des cabanes à ordures. Je suis allée à un endroit où il y avait une carpette, enfin, ils ont changé la moquette, ils ont changé les tapis, il y avait des chaussures, il y avait des béquilles, il y a tout ce qu'on veut. Et ça arrivait presque au toit. Alors, je pense qu'il y a une grande discipline de ce côté-là à faire.
Ben ça c'est oui, je pense que c'est de l'incivilité de la part des habitants, qui savent très bien que les encombrants, ils ne sont pas à déposer auprès dans les cabanes à ordures. C'est simplement tout ce qui est ordures ménagères et verres qui doivent être déposés. Donc ça, effectivement, il est difficile pour nous de retrouver les gens qui laissent des encombrants autour des cabanes à ordures. Alors, en ce qui concerne les cabanes à ordures, dans le cadre de la communauté de communes, il y a de nouveau un nouveau président qui a été élu pour s'occuper des ordures ménagères. Donc, il est ressorti des discussions qu'il y avait entre nous, entre élus, qu'ils n'étaient pas très bien entretenus. Donc, il y a une démarche qui va être, engagée de façon à ce qu'il y ait un entretien plus assidu et plus mieux fait dans une démarche de qualité de service.
Oui, bonsoir, Michel Jacquenoux. Je voudrais savoir s'il y a un obstacle pour rendre, je dirais, comme un peu obligatoire le port du bonnet de bain à la piscine, pour les cheveux longs du moins, parce que quelquefois, c'est quand même pas très agréable de ramasser les mèches des cheveux dans l'eau.
Honnêtement, je sais pas, enfin, je pourrais pas vous répondre si c'est une obligation d'imposer le port du bonnet ou si ce sont des règles qui sont données dans les différentes piscines par rapport aux différentes collectivités.
Ben, honnêtement, on ne connaît pas la réponse. Je pense qu'on va se renseigner. On vous apportera une réponse lors du prochain conseil municipal, si c'est possible.
Je veux dire que dans certaines grandes agglomérations, comme par exemple, je dirais, citerai Toulouse, que je connais bien puisque j'ai de la famille là-bas, on rend obligatoire le port du bonnet de bain. Question d'hygiène. Enfin, qu'est-ce qu'il y en a d'autres maintenant?
Oui, oui.
Oui, si on pourrait, accentuer
pour tout le monde alors, garçons et femmes.
Oui, pourquoi pas.
On va se pencher sur la question et vous tient au courant prochaine.
Honnêtement, ça me paraît difficile d'imposer le port du maillot de bain, du bonnet de bain. Voilà, c'était pour détendre l'atmosphère. Et ça a marché. Non, évidemment, le bonnet de bain, cela étant, évidemment, on va se renseigner. Et ça n'a jamais été fait, ça paraît difficile de le faire aujourd'hui.
Il y a peut-être aussi la problématique que chez nous, il y a un aspect ludique au niveau de la piscine et que imposer le port du bonnet de bain aux touristes, c'est vrai que dans une commune qui accueille des gens réguliers du village, c'est peut-être plus facile à imposer par rapport à l'origine de la clientèle. Alors que nous, c'est vrai qu'elle est diversifiée par son origine pendant la saison. Mais bon.
Il me semble également que depuis que le short de bain a été imposé aux adolescents, on a perdu un peu de clientèle au niveau de la fréquentation de la piscine. Ces jeunes, ils aiment bien arriver avec leurs shorts de bain et pas leur maillot de bain, apparemment. Juste pour votre information, il y a également le Festival des musiques du Faucigny l'été prochain. Il y a une réunion avec les bénévoles, ceux qui étaient éventuellement intéressés pour participer à cet événement, qui a lieu le dimanche 29 juin. Alors il leur manque beaucoup de bénévoles, il leur faut à peu près 150 bénévoles, dont 60 personnes pour accompagner les musiques, les commissaires. Donc ce sera en couple ou par deux personnes éventuellement. Donc je vous invite à vous rapprocher soit de Megève Tourisme, soit de l'Orchestre d'Harmonie Megève. C'est pour le dimanche 29 juin, pour participer à l'événement. Je voulais aussi vous donner une information. Certaines personnes d'entre vous, parmi vous, se sont certainement aperçues que la cabine du téléphérique de Rochebrune avait été déplacée, qu'elle est située aujourd'hui au carrefour des Mésanges. Donc, évidemment, cette décision avait été prise avant les élections, parce que c'est une demande qui a été formulée par l'Orchestre d'Harmonie Megève dans le cadre justement du Festival des Musiques, puisqu'ils ont fait le choix de communiquer sur la cabine du téléphérique de Rochebrune plutôt que de communiquer sur le clocher de l'église pour changer un petit peu. Voilà.
Oui, je rajouterais que c'est une assez bonne idée dans la mesure où justement il y a une dalle qui permet d'être bien à plat. Et ça a certainement été plus facile à mettre en place qu'à l'autre entrée de Megève, puis comme ça, les habitants en profitent des deux côtés. Bon, c'est une bonne chose.
Bah, moi, je pense que personnellement, elle est très bien là-bas. On la voit même davantage. Il y a peut-être plus de monde qui arrive de Sallanches et qui va monter au Mont d'Arbois ou qui va monter à Rochebrune et qui ne va pas forcément aller faire le tour du rond-point de l'Ariane Colline. Donc, je pense qu'il y a finalement plus de monde qui apprécie cette cabine. Donc pour vous donner un petit peu plus d'informations sur ce festival des musiques, donc c'est une animation qui se déroulera dans les rues et places du village. Et donc Megève va accueillir le 178e festival des musiques du Faucigny. Le premier festival des musiques a eu lieu en 1962 à Megève. Je me rappelle bien parce que c'est une date qui me va bien. Donc à peu près 1200 musiciens seront présents le jour de cette manifestation.
Je vous rappelle la commémoration du 8 mai, donc jeudi 8 à 18h30 sur la place de la mairie. Et votre présence au conseiller, s'il vous plaît. Merci. Huit heures a sonné. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte la séance du Conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Donc, Christophe Bougot, procuration à Catherine Julien. Edith Allard. Présente. Laurent Soquet. Présente. Jocelyne Co. Présente. Patrick Philippe. Présente. Frédéric Goujat. Présente. Nadia Arnaud-Prin, procuration à David Serioli. Marie Cabuchet. Catherine Perret, David Serioli, présent. Lionel Mella, présent. Annabelle Baccara, procuration à Edith Allard, Jonathan Sepulveda, présent. Marie-France Allard, présent. François Fugier, procuration à Laurent Soquet, Lauriane Tissot, présent. Samuel Mabou, présent. Catherine Géloul, présent. Jean-Pierre Châtelard, procuration à Frédéric Goujat, Sylviane Grosset-Jana,
présente.
François Ruggieri, procuration à Sylviane Grosset-Jana.
Oui, je l'accepte.
Pierrette Morand. Présente.
Lionel Bury.
Présent.
Micheline Carpano. Présent. Denis Worms, procuration à Marie-Christine Ansanet. Et Marie-Christine Ansanet. Alors, depuis le dernier conseil municipal, il n'y a pas de naissance. Le 26 avril, un mariage, Xavier Ricciardi et Ekaterina Chorikova. Donc, nous souhaitons tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés. Les décès, le 30 mars à Megève, Lucienne Guédon, née à Lard. Le 19 avril à Megève, Marcel Navarro. Et le 19 avril à La Tronche, Karine Sontag. Nous adressons toutes nos condoléances aux familles touchées par ce décès, ainsi que toute notre sympathie.
Madame le maire, est-ce que un secrétaire de séance a été...
Oh, nommé? Pardon.
Non, mais ce n'est pas un problème, c'est juste...
Merci, Sylviane. J'ai sauté à pied joint le... Donc, il me faudrait un secrétaire de séance. Marie Cabuchet, merci. Alors, vous avez tous les recueils des arrêtés et d'urbanisme, arrêtés municipaux, arrêtés du service du personnel, le recueil des contrats du service du personnel. Ensuite, nous avons reçu des remerciements, le Bridge Club de Megève, Vie Libre, La Soif d'en sortir, la Société de pêche de Megève et demi-quartier, le Comité des œuvres sociales de la commune de Megève, qui remercie les élus du conseil municipal pour l'octroi d'une subvention pour l'année 2014. Éric Gravier, directeur technique du syndicat national des moniteurs de ski français, qui remercie les élus du conseil municipal pour l'aide apportée lors de l'organisation du 11e Nordic Skier Cross de Megève. Alors, je vais vous demander de rajouter une délibération à l'ordre du jour. C'est une délibération qui concerne les collèges publics Émile Alès avec la désignation des membres de son conseil d'administration. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette délibération acceptée à l'unanimité. Vous êtes appelé à vous prononcer sur le procès-verbal de la séance du 14 avril 2014, qui vous a été transmis le 17 avril 2014. Est-ce que vous avez des observations à y apporter ?
Oui, Sylviane Grosset, je souhaiterais une petite correction en page 91. Lorsque j'ai tenu à féliciter Madame le maire d'être le premier vice-président de la communauté de communes, c'est cette place de premier vice-président qui, pour moi, était importante et qui n'est pas mentionné, parce que j'étais déjà vice-présidente, mais pas première vice-présidente. Donc, si un conseiller souhaite féliciter Mme Catherine Julien-Brèche pour son élection en tant que première vice-présidente de la communauté de communes.
Merci. Merci, Sylviane, de cette précision. J'ai juste un petit rapport à vous faire par rapport à cette délibération qui m'est parvenue par mail par rapport à l'origine de la commune de demi-quartier. Je peux vous le lire, c'est concernant les travaux de l'aménagement de la route d'Audier. Madame le maire, suite à l'écoute du dernier conseil municipal de Megève, je tiens à vous faire part de mon étonnement quant à l'intervention de Monsieur Lionel Buril sur l'aménagement de la route d'Audier. Monsieur Buril a précisé que le dossier avait été retardé à cause de la commune de demi-quartier. Or, au printemps 2013, nous avons contacté tous les propriétaires de demi-quartier concernés par le projet d'agrandissement de cette route et avons obtenu le retour de plusieurs conventions signées, acceptées et annotées de leurs observations, ce qui prouve bien que nous n'avons en rien retardé le processus de l'étude. Depuis 2001, ce projet est à l'étude et espérons qu'il verra sa réalisation les prochaines années. Donc c'est un courrier qui vient de Madame Périnet, maire de demi-quartier.
Oui, juste pour répondre, c'était comme Laurent Soquet avait dit que c'était la commune de Megève qui n'avait pas donné suite, c'était que le dossier était en attente, en fait, des deux D'accord. côtés.
Ok, je pense qu'ils se sont sentis un petit peu en cause de, par rapport au non-avancement des travaux, mais donc les deux communes travaillent sur l'avancement des travaux de cette route et c'est un travail en commun, voilà. Alors, première délibération, administration générale, indemnité du maire et des adjoints. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai voulu aller un peu vite, encore une fois. Alors, qui est pour l'acceptation du procès-verbal de la dernière délibération du conseil, des dernières délibérations du conseil municipal ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour ce vote à l'unanimité. Alors, première délibération qui concerne les indemnités du maire et des adjoints. En vertu de l'article L21-23-17 du Code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipaux sont gratuites. Elles donnent lieu au versement d'indemnités de fonction destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs citoyens. Donc la délibération fixant les indemnités de fonction des élus doit intervenir dans les 3 mois suivant le renouvellement du conseil municipal. Elle doit être accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux. Il vous appartient donc de déterminer le taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maximums fixés par la loi. Ces taux maximums sont fonction du nombre d'habitants, conformément à l'article L21-23 du Code général des collectivités territoriales. La population à prendre en compte pour le calcul du montant des indemnités est le chiffre de la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement du conseil municipal, soit 3694 habitants pour la commune de Megève. Le plafond des indemnités de fonction allouées au maire est défini en pourcentage de l'indice brut 1015 de la fonction publique. S'agissant d'une commune de 3694 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire ne peut dépasser 55% de cet indice, conformément à l'article L23-23. Le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux adjoints est également déterminé en pourcentage de l'indice brut 1015. Il est à préciser que l'octroi de l'indemnité à un adjoint est subordonné à l'exercice effectif des fonctions, ce qui suppose en particulier que celui-ci ait reçu une délégation de fonctions sous forme d'un arrêté du maire. S'agissant d'une commune de 3694 habitants, le taux maximal de l'indemnité des adjoints ne peut, conformément à l'article L23-23-24 du CGCT, dépasser 22% de l'indice brut précité. Les conseillers municipaux ont également bénéficié d'indemnités en fonction sous certaines conditions. En effet, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut voter dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, c'est-à-dire de l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice sans les majorations. L'indemnisation d'un conseiller municipal ayant reçu délégation de fonction. L'article L23-22 du CGCT prévoit enfin la possibilité d'appliquer des majorations de fonctions. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, les élus concernés sont le maire et les adjoints. S'agissant d'une station classée dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le conseil municipal peut donc décider d'appliquer une majoration de 50% aux indemnités du maire et des adjoints. Donc vous avez le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités de fonctions allouées aux élus municipaux. Donc je vous propose de fixer avec effet au 5 avril 2014, date de la prise de fonction, le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire comme suit, 55% de l'indice 1015, et de fixer avec effet au 10 avril 2014, date d'entrée en vigueur des arrêtés de délégation de fonctions pour l'exercice des effectifs des fonctions des adjoints ou de maire et de conseillers délégués. De constater que l'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue à l'article L21-23-24 du CGCT, d'approuver la majoration de 50% applicable aux stations classées de moins de 5 000 habitants aux indemnités des fonctions du maire et des adjoints, dire que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évaluation de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune et transmettre aux représentants de l'État dans l'arrondissement la présente délibération le tableau annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Alors, à titre indicatif, pour votre information, le montant de l'indemnité perçue par le maire après, je dirais, charges toutes confondues, l'indemnité nette est de 1 650 €. Celle des adjoints est d'un petit peu plus de 800 €. Et nous avons un conseiller délégué, en l'occurrence David Serioli, qui touche 250 €. Voilà.
Sylviane Grosset-Jeunin, j'aimerais rajouter un petit commentaire. En effet, la somme peut paraître importante quand on regarde l'enveloppe globale, mais je trouve ça profondément injuste, car Megève, peut-être, n'a que 3694 habitants officiellement. Mais je rappelle que nous sommes une commune qui est surclassée de 40 à 80 000 habitants, que la charge de l'exécutif, et en particulier du maire, est extrêmement conséquente et sa responsabilité très lourde. Je rappelle également que la présidence de la SEM, enfin en tout cas jusqu'à présent, a porté une rémunération de zéro. En étant
c'est
PDG
toujours
de
la même
chose.
C'est toujours identique.
C'est toujours bien. La même chose. Et qu'être également président de l'Office du tourisme ou de la maison de retraite, c'est aussi zéro. Donc, ce que Mme Julien ne vous a pas dit, c'est qu'il faut également s'assurer en responsabilité
bien
civile,
entendu.
Car les risques sont extrêmement conséquents. Et je maintiens, je trouve cela. Compte tenu de la charge de travail et de la responsabilité, je trouve que même s'il y a le petit bonus de station classée, eh bien, c'est très en dessous du travail et de la charge d'un maire d'une commune comme celle de Megève.
Merci Sylviane pour ton intervention, qui est, je crois, tout à fait justifiée, mais qui ne pouvait être qu'évoquée par qu'un tiers. Alors, je vous propose, donc, qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette délibération validée à l'unanimité. Quatrième délibération, c'est majoration du crédit d'heure pour l'exercice de mandats locaux. Indépendamment des autorisations d'absence, les maires, adjoints et conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heure leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et la préparation des réunions des instances dans lesquelles ils siègent. Donc, conformément aux articles L2123-2 et R2123-5 du CGTC, ce crédit d'heure forfait et trimestriel est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal à 105 heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants, 52h30 pour les adjoints aux maires et conseillers délégués des communes de moins de 10 000 habitants et de 10h30 pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heure prévu ci-dessus. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. La durée du crédit d'heure de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues à l'article L2122-17 du CGTC, absence, suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, et pendant la durée de la suppléance, celle prévue pour le maire de la commune. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heure est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévu pour l'emploi considéré. En outre, en vertu de l'article L2123-4 et L2323-22 du CGTC, le conseil municipal peut, dans le cas d'une station classée, voter une majoration de la durée du crédit d'heure prévue par la loi. Cette majoration ne peut toutefois dépasser 30% par élu. Donc je veux quand même signaler qu'effectivement, autour de la table, il y a des élus qui sont adjoints, mais qui ont un travail à temps plein et à temps complet dans leur vie professionnelle et qui doivent se dégager de leur activité. Donc ils se dégagent de leur activité pour venir travailler sur la commune, sur la collectivité. Mais comme vous le dit cette délibération, il faut qu'ils aient une autorisation de temps pour se dégager, mais que ce temps-là n'est pas payé. Et que certains élus autour de la table prennent sur leur temps de congé pour pouvoir venir travailler pour la collectivité. Donc, je vous propose d'approuver la majoration de 30% du crédit d'heure trimestriel maximum dont peuvent bénéficier les membres du conseil municipal et d'autoriser le maire ou son représentant à procéder à toutes les démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la présente. Pardon. Donc, je croyais qu'il y avait des observations, non ? Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour l'acceptation de ces délibérations. Cinquième délibération, c'est règlement intérieur. Donc, vu l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, prévoyant l'obligation pour les conseillers municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d'un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent leur installation. Donc, vu l'installation du conseil municipal en date du 4 avril, je propose à l'Assemblée municipale, d'approuver le projet de règlement intérieur du conseil municipal annexé à la présente, que vous avez pu déchiffrer au moment de la réception de cette délibération. Et est-ce que vous avez aujourd'hui des observations à y apporter ? Excusez, sûrement un copier-coller, ce qui arrive de temps en temps avec l'informatique.
Sylviane Grosset, j'ai pas su lire la place d'expression dans les documents.
Pourtant, elle y est. Oui, je me sens bien qu'on l'a. Alors, attends. Est-ce que c'est mandat ? Page 32.
D'accord.
Ah, pardon, article 34. La majorité ne s'exprimera pas. Il n'y a que l'opposition qui s'exprimera avec les mêmes longueurs de texte qui étaient prévues précédemment.
Oui, enfin, rassurez-moi, la majorité s'exprimera tout au long du reste du bulletin.
Elle s'exprime, oui, mais pas dans la page d'expression. Donc merci. La page d'expression est dédiée à deux groupes de l'opposition.
En matière de locaux, donc
de locaux la, pour
la
le
demande, la, de, bah, justement pour pouvoir pour que le groupe que les autres groupes puissent se réunir. Donc la demande doit être formellement exprimée ou bien
oui, il faut qu'il y ait une constitution de groupe politique. C'est stipulé dans l'article 33, page 32. Les conseillers peuvent se constituer en groupe selon leur affinité politique par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe. Donc chaque conseiller peut adhérer à un groupe, mais il ne pourra pas en faire partie d'un seul. Tout groupe politique doit réunir au moins 2 conseillers municipaux.
D'accord, mais en ce qui concerne les locaux, il ne faut pas forcément faire partie d'un groupe politique, il suffit de faire partie d'une liste non majoritaire, non ?
Le conseil municipal peut affecter au groupe d'élus pour leur usage propre ou commun un local, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de télécommunication, de documentation et de courrier.
D'accord. Donc sinon, on peut disposer sans frais du prêt d'un local commun.
Oui, tout à fait.
Et en cela, donc, il faut faire une demande formelle.
Voilà.
Par écrit.
Oui.
Ok, je vous remercie.
Vous avez d'autres observations ? Alors, on peut passer au vote ou vous avez encore besoin de consulter ? Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette délibération validée à l'unanimité. Alors, la délibération numéro 6 qui concerne la création de la commission communale des impôts directs, je vous propose de la retirer car la liste, nous n'avons pas eu la réponse de tous les titulaires qui étaient destinés à faire partie de cette liste et nous vous la reproposerons au prochain conseil municipal. Donc, qui est pour ? Non ? Alors, bon, ok. A priori, je n'ai pas à vous demander votre avis. Alors, délibération numéro 7, Collège public Émile Alès, conseil d'administration et désignation des membres. Le Collège public Émile Alès est un établissement public local d'enseignement accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée. En application des dispositions de l'article R421-16 du Code de l'éducation, son conseil d'administration est composé des membres suivants. Le chef de l'établissement, président, le chef d'établissement adjoint ou le cas échéant l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints, l'adjoint gestionnaire, le conseiller principal d'éducation le plus ancien, un représentant de la collectivité territoriale de rattachement, deux représentants de la commune siège de l'établissement ou lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège, une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désigné en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à 4. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R421-15. 8 représentants élus des personnels, dont 6 au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et 2 au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de services. Et 8 représentants des parents d'élèves et des élèves, dont 6 représentants élus des parents d'élèves et 2 représentants élus des élèves. Donc, au vu des dispositions ci-dessus rappelées, il est donc proposé à l'Assemblée municipale de désigner les représentants de la collectivité, un membre titulaire et un membre suppléant au conseil d'administration du Collège Émile Alès. Donc, je vous propose d'approuver les conseillers municipaux suivants en qualité de représentant de la commune. En titulaire, Marika Buchet et en suppléant, Catherine Perret. Et d'autoriser le maire ou son représentant à procéder à toutes les démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la présente. Qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Merci pour cette délibération validée à l'unanimité. Délibération numéro 8 qui concerne la SEM des remontées mécaniques de Megève, présidence et direction générale. S'agissant de la présidence du conseil d'administration de la SEM des remontées mécaniques de Megève, il est prévu à l'article 15 de ses statuts que le conseil d'administration élit parmi ses membres un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur. Le président peut être soit une personne physique, soit une collectivité locale, soit un groupement de collectivités locales. Le président est désigné par le conseil d'administration. S'il s'agit d'une collectivité locale ou d'un groupement, celui-ci ou celle-là agit par l'intermédiaire d'un des représentants de la collectivité ou du groupement concerné, autorisé à occuper cette fonction par délibération du conseil de la collectivité ou du groupement. Donc, en application de ces dispositions, il vous est proposé d'approuver la désignation de la commune de Megève représentée par son maire, en l'occurrence moi-même, Catherine Julien, en qualité de président du conseil d'administration. S'agissant de la direction générale, il est précisé à l'article 18 des 10 statuts que la direction générale de la société est assumée sous la responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. L'option entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectuée par le conseil d'administration. En l'occurrence, il est envisagé de confier la direction générale de la SEM des remontées mécaniques à Catherine Julien,
Le conseil municipal sera par conséquent invité à approuver cette option. Donc je vous propose d'approuver la désignation de la commune de Megève, représentée par son maire en exercice, en l'occurrence moi-même, Catherine Julien, en qualité de présidente du conseil d'administration de la SEM des remontées mécaniques de Megève, et d'approuver la désignation de moi-même, Catherine Julien, en qualité de directeur général de la SEM des remontées mécaniques de Megève, et d'autoriser le maire ou son représentant à procéder à toutes les démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la présente. Qui est pour ?
J'ai une question. Sylviane Grosset-Jana, j'ai deux questions. Est-ce à dire que vous aurez le titre de président-directeur général ou non ? Je sens une subtilité un peu différente de...
Non, président-directeur général.
Président-directeur général, donc c'est ce que je voulais entendre. Et est-ce qu'il peut être porté à notre connaissance le fait que peut-être serait désigné un directeur général délégué ?
Oui, je pense qu'il sera désigné un président-directeur général délégué.
Non, pas un président-directeur général,
c'est impossible. Un directeur général délégué. Bien. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, il y a donc une abstention. Pardon, l'autre, c'est qui ? Ah, ça fait deux voix, d'accord. Deux abstentions sur cette délibération. Délibération numéro 9, convention de partenariat entre la commune de Megève et la trésorerie principale de Sallanches. Poursuite sur des produits locaux, Frédéric Goujat.
Cette convention de partenariat relative aux poursuites sur produits locaux doit être signée entre le comptable public responsable de la trésorerie de Sallanches et la commune de Megève. Cette convention aura pour objet d'améliorer le taux de recouvrement des produits locaux, de cibler les actions sur les dossiers à enjeu et d'accélérer le traitement des demandes d'admission en non-valeur. Alors en annexe, vous avez le projet de convention, qui est un projet tout à fait classique. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat entre la trésorerie de Sallanches et la commune de Megève relative aux poursuites sur produits locaux et autoriser Madame le maire à effectuer les formalités nécessaires à l'application de la présente délibération.
Ce que je voudrais préciser, ce qu'on entend par produits locaux, c'est les frais de secours sur piste, et puis éventuellement il y a tout ce qui est cantine et garderie.
Les loyers sont pas les produits locaux. Il me semble.
Oui, les loyers, mais
non, c'est une part importante.
Une part importante, oui, les loyers, mais
merci.
Concernant cette délibération, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'y a pas d'abstention. C'est adopté. À l'unanimité.
Délibération numéro 10. C'est un porté à connaissance du bilan d'activité 2013 du CIVU Megève Frassure-Arly concernant la station d'épuration. Donc, vous avez eu dans l'envoi des délibérations le bilan d'activité 2013 de la station d'épuration CIVU Megève Frassure-Arly. Ce bilan vous explique l'exploitation 2013 et détaille les évolutions dans plusieurs secteurs. Le fonctionnement général de la station, le débit de l'effluent, le processus de traitement, la gestion des déchets, les matières de vidange et de curage, la partie laboratoire. Le bilan d'activité 2013 du suivi est disponible au secrétariat général de la mairie. Donc les élus, vous avez donc pris connaissance de ce rapport d'activité. Donc là, je n'ai pas à vous le faire, il n'y a pas de vote sur cette délibération.
Non, pas de vote. Sylviane Grosset-Janin. Simplement, je voudrais rebondir sur un paragraphe qui est ancien sans doute, puisque c'est la délibération 2008-023, où il est indiqué que les communes devront engager la rénovation de leur réseau et réfléchir également à l'instauration de taxes, etc. Il est vrai que on sait qu'il va y avoir à investir d'une façon très conséquente, en particulier au niveau du séparatif et au niveau de la station d'épuration, puisque, comme vous le savez, c'est le genre d'établissement qui vieillit extrêmement rapidement, malgré la qualité des matériaux qui ont été mis en place, à savoir une quasi-totalité en inox.
Donc, nous passons à la délibération numéro 11, qui concerne la délégation de service public du restaurant de l'Altiport et l'approbation du rapport de délégataire du service public. Donc, le contrat de délégation de service public pour la commune de Megève a pris effet le 15 décembre 2012 et prendra fin le 30 septembre 2016. La commission délégation de service public, constituée par délibération du 14 avril 2014, a préalablement convoqué le 24 avril 2014 pour prendre connaissance et débattre du rapport relatif à l'exploitation du restaurant de l'Altiport au titre de l'exercice 2012-2013. Madame Céline Brun, délégataire du restaurant de l'Altiport, porte à la connaissance du conseil municipal son rapport annuel arrêté au 30 septembre 2013 qui comprend les éléments suivants. Une partie technique retraçant les informations relatives à l'exploitation et la situation du personnel, une partie qualitative listant les événements organisés et une partie financière présentant les comptes de la société pour l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 certifiés conformes par l'expert comptable. Donc vous avez eu ce rapport de synthèse et j'aurai une observation à y apporter concernant une charge de gestion non assumée jusqu'à présent par le délégataire qui est l'électricité. Donc, dans ce rapport qui nous est présenté, il est stipulé que la commune ne réclamera pas de somme rétroactivement. Donc, effectivement, il y a eu pendant 6 ans de l'électricité qui n'a pas été encaissée. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que on remédie à ce problème et qu'on essaye de quand même de récupérer une petite participation. Sans revenir sur un arriéré de 6 ans, mais je pense qu'il faudrait souhaiter que l'on récupère une partie de l'électricité.
Ouais, Sylviane Grosset-Janin, je partage totalement cet avis. Il est vrai qu'il a fallu séparer les consommations et les différents compteurs et qu'il y a eu une période d'hésitation entre le moment où justement tous ces compteurs ont été mis en place d'une façon très, très, très affirmée.
Et j'aurais aussi une petite remarque à faire à Madame le maire, c'est que dans le rapport qui est proposé aujourd'hui à l'ensemble des membres, il y a quand même quelques légers points qui seront à étudier plus tard avec ce délégataire, à savoir qu'il y a quand même une absence de provision qui est constatée dans, relativement au renouvellement des matériels. C'est important pour la commune, parce qu'en cas de défection et de problème sur les 10 matériels, en cas de sortie du DSP, il y aura un problème sur qui paiera. Et ça, c'est le premier point. Ensuite, il y avait un deuxième point qui m'a un petit peu étonné, c'est qu'on a les fonds propres en capital qui sont négatifs, alors que la société dégage du résultat. Ce résultat est subordonné aussi au versement de salaire de la part du délégataire public, qui sont inscrites dans les comptes. Il conviendrait de rappeler au délégataire que la constitution de réserve est une chose obligatoire et qu'il serait bien de l'effectuer. Donc c'est juste des petites remarques, mais je pense qu'il faut quand même que la commune s'inquiète de cette délégation. C'est tout.
Merci. Nous veillerons à ce que ces points soient remis d'aplomb et permettent une gestion et un bilan plus clair pour l'année prochaine. Alors, qui est pour ? Non, il n'y a pas de vote, mais pour les décisions que nous avons prises, vous validez qu'on aille dans le sens de ce qu'on a dit.
Ok.
Pardon. Si, on me confirme qu'il faut qu'on approuve le rapport. C'est un délégataire, il faut approuver le rapport. Donc, qui approuve ? Merci. Qui est contre et qui s'abstient ? Donc, merci pour cette délibération validée à l'unanimité. Délibération numéro 12, opération d'éclairage public, travaux de gros entretien et de reconstruction, approbation du plan de financement, Laurent Soquet.
Par délibération en date du 29 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Megève a autorisé le transfert des compétences éclairage public et gaz au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, dit le CIAN. Par la suite, il a été demandé au CIAN d'intégrer à son programme la stratégie lumière en cours et de réalisation sur Megève, ainsi que les travaux de gros entretien et de reconstruction. Afin de permettre au CIAN de lancer les travaux, il convient que la commune de Megève approuve le plan de financement des opérations. Ce document est annexé à la présente délibération et les conseillers sont invités à le consulter. Il contient également la répartition financière proposée entre la commune et le syndicat. Il sera aussi demandé à la collectivité de s'engager à verser au CIAN la participation communale sur ces travaux. Il est précisé que les montants des travaux indiqués sur le plan de financement correspondent aux estimatifs des travaux issus des dossiers d'exécution. Donc en annexe, vous avez le plan de financement. Proposition, donc le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu, est invité à approuver le plan de financement dont le montant global s'élève à 65 049 000.
Non. C'est notre budget.
65 049, pardon, j'ai rajouté des... C'est important, là. Ouais. 65 049. Accepter le versant d'une participation de 37 721 euros, correspondant aux travaux des honoraires divers, et de 1 951 euros TTC, permettant de couvrir les frais généraux du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie. S'engager à verser au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie 80% du montant des frais généraux, soit 30 177 euros sous forme de fonds propres dès l'émission du document commandant à l'entreprise le démarrage des travaux, le solde étant régularisé lors du décompte définitif. S'engager également à verser au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie sous forme de fonds propres le solde de la participation hors frais généraux à la charge de la commune à concurrence de 80% du montant prévisionnel, soit 1 561 euros, et ceci dès l'émission du document commandant à l'entreprise le démarrage des travaux, le solde étant régularisé lors des décomptes définitifs.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour ces délibérations validées à l'unanimité. Délibération numéro 11, c'est convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour l'effacement de réseaux de distribution de l'électricité, de télécommunication et d'éclairage public. Opération route du planet. Autorisation de signer. Laurent Soquet.
Le secteur du plein air regroupe un ensemble de constructions qui, aujourd'hui, n'est pas raccordé au réseau public d'eau et d'assainissement. De même, ce périmètre est dépourvu d'un système de défense incendie. Les services préfectoraux, dans le cadre des mesures de protection, imposent, déclaration d'utilité publique de mars 2003, la mise en place d'un assainissement collectif dans le hameau pour pallier à tout risque de contamination bactériologique de ces eaux. Suite à une étude globale sur le bassin versant, proposé de conclure un PUP entre la commune et cette société. Cette convention signée le 7 juin 2012 permet à la collectivité de faire financer par une personne privée des équipements publics pour un montant supérieur à celui qu'elle aurait perçu par le biais des taxes d'urbanisme. Dans la convention, le montant du financement supporté par la SFHM s'élève à 320 000 euros. La commune va mener des opérations de travaux pour réaliser l'alimentation en eau potable, l'assainissement des eaux usées et l'aménagement de la voirie et assainissement des eaux pluviales dans ce secteur. Afin d'optimiser ces travaux, des interventions sur réseau sec en coordination des interventions au réseau humide sont envisagées. Dans le cadre de l'opération coordonnée dénommée Route du Planet, le CIAN a décidé de réaliser l'enfouissement des réseaux électriques, aériens, de distribution électrique, de télécommunications et d'éclairage public. La commune de Megève prévoit de réaliser les travaux de rénovation de la voirie. La réalisation de ces travaux relève simultanément de la compétence des deux entités. Afin de coordonner les interventions et réduire les coûts, le CIAN et la commune proposent de désigner cette dernière comme maître d'ouvrage de l'opération pour ce qui concerne les travaux de génie civil du réseau public de distribution d'électricité, du réseau de télécommunications et du réseau d'éclairage public. Afin de formaliser la décision de la commune de Megève comme maître d'ouvrage de cette opération, une convention doit être conclue fixant les conditions de son organisation et son terme. Le projet de convention est annexé à la présente délibération et les conseillers sont invités à le consulter. Il prévoit également les modalités de financement de l'opération de travaux sur le réseau public de distribution d'électricité qui est estimé à 121 078 euros, y compris les travaux sur le réseau de télécommunications et sur le réseau d'alimentation de l'éclairage public. L'opération comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Travaux électriques, moyenne tension, pas de participation CIAN. Tranche ferme, 16 171 euros. Tranche conditionnelle, 8 606 euros. Total, 24 777 euros. Travaux électriques, basse tension, participation CIAN à la hauteur de 40% du montant hors taxe. Tranche ferme, 50 440 euros. Tranche conditionnelle, 5 340 euros, 45 euros. Total, 55 785 euros. Travaux éclairage public, participation CIAN à la hauteur de 30% du montant hors taxe. Tranche ferme, 6 633 euros. Total, 6 333 euros. Travaux télécommunications, pas de participation CIAN. Tranche ferme, 32 938 euros. Tranche conditionnelle, 945 euros. Total, 33 883 euros. Donc, en annexe, les conseillers peuvent trouver la convention d'organisation de la maîtrise d'œuvre d'ouvrage pour l'effacement des réseaux de distribution d'électricité, des télécommunications et de l'éclairage public. Donc, le conseil municipal, exposé du rapporteur entendu, est invité à autoriser Madame le maire à signer la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour l'effacement des réseaux de distribution d'électricité, de télécommunications et d'éclairage public. Autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette convention.
Lionel Burry, j'ai juste une petite question. Je comprends bien que ça va se faire dans l'année 2014, mais c'est dommage qu'il n'y ait aucun planning par rapport à la date de début de travaux, à peu près. Enfin, on ne sait pas si c'est l'été, si c'est septembre. Si
en gros, 15-20 mai, le début des travaux. Il y a une réunion qui est prévue prochainement avec les riverains de la route du Planet.
Ouais, disons que c'est dommage que ce ne soit pas indiqué dans la convention à peu près les dates, quoi, parce que c'est toujours avec eux difficile après de les faire.
Oui, oui. D'autres questions ?
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette délibération validée à l'unanimité. Contrat de rivière Arly-Doron-Chaise, action B1-402, gestion du transit sédimentaire du Glapet aux abords de l'Altiport et définition d'un protocole de gestion sédimentaire et réfection de seuil. Laurent Soquet.
Exposé. Madame le maire expose au conseil municipal le projet concernant l'élaboration d'un plan de gestion des matériaux du Glapet estimé à 24 000 euros hors taxe, soit 28 800 euros TTC. Ce projet s'intègre dans le cadre du contrat de rivière Arly-Doron-Chaise, dans le volet B1, restaurer les milieux aquatiques dégradés sous le numéro d'action B1-402. L'étude envisagée comprend notamment la réalisation d'un état initial du cours d'eau, historique des ouvrages, étude hydraulique à l'échelle du bassin versant du Glapet, étude morphologique, complémentaire à l'étude hydromorphologique du bassin versant de l'Arly. L'élaboration du plan de gestion avec un protocole d'intervention, la réalisation des dossiers réglementaires. Proposition. Le conseil municipal et l'exposé du rapporteur entendu est invité à approuver le projet concernant l'élaboration d'un plan de gestion des matériaux estimé à 28 800 euros TTC. Autoriser le maire à solliciter les subventions pour cette opération auprès de l'Agence de l'eau, du Conseil général et du Conseil régional. autoriser le Conseil général à percevoir sous son compte la subvention attribuée par l'Agence de l'eau et à la verser au maître d'ouvrage. Autoriser le maire à signer tout document administratif ou financier nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Je me permets de rappeler qu'aujourd'hui, c'est la collectivité qui s'engage à entretenir les rivières, mais que théoriquement, elle initie ce travail, cette ébauche de travail, mais que c'est après, théoriquement, aux propriétaires d'entretenir les berges.
Sylviane Grosset, si je peux me permettre d'apporter quelques commentaires sur ce sujet qui me paraît essentiel. On est typiquement dans un problème, dans le traitement d'un domaine qui s'appelle l'environnement et qui présente de nombreuses facettes à Megève. Il se trouve qu'on a un travail qui est très positif et avec dans le cadre du contrat de rivière avec la Savoie du Sud, avec l'Arly. Ce travail, il est, on va dire, subventionné uniquement au niveau des études. C'est sur ce qu'on va comprendre. Donc, il y a déjà pas mal d'études qui ont été faites. On s'est employé à travailler énormément sur le domaine de l'eau et les bassins versants dans le mandat précédent. Ce que je voudrais rappeler, c'est que ce problème de l'entretien des berges, il est souvent considéré comme très injuste par les riverains. Parce que ce qui arrive chez un riverain, en général, vient de l'amont. Et c'est souvent le défaut d'entretien de l'amont qui oblige un propriétaire de l'aval à faire des dépenses. C'est pour ça que quand c'est la collectivité qui prend en charge, eh bien, les choses sont réparties équitablement entre ceux qui sont au bord des rivières, ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont en amont, ceux qui sont en aval, parce que c'est aussi pour nous une richesse très importante que d'avoir des cours d'eau. Alors, pour revenir donc à l'environnement, et je ne m'attarderai pas trop, c'était une des raisons, entre autres, pour lesquelles je regrette qu'il n'y ait pas, je vais dire, une structure vraiment concernée par tous ces aspects qui sont très importants pour nous, au sein du conseil municipal, bien sûr.
Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Merci pour l'acceptation, la validation de ces délibérations à l'unanimité. Pôle famille, enfance, éducation, affaires scolaires, dossier de subvention, autorisation de signature. Marie Cabuchet.
La commune de Megève a pour projet de créer des actions en faveur des familles pour les aider dans leur rôle de parents avec l'appui du REAAP 74, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Le comité de pilotage et de financement de ces réseaux est dirigé par la Caisse d'allocation familiale et la Direction départementale de la cohésion sociale. Il a pour objectif de redonner confiance aux parents et de les aider à assurer leur rôle parental grâce à des rencontres autour de leurs activités, à savoir groupes de parole, conférences, débats, activités parents, avec ou sans l'appui de professionnels du secteur. Il renforce le dialogue, les échanges et ainsi conforte les parents à exercer pleinement leurs responsabilités parentales. Le REAAP soutient financièrement les collectivités qui en font la demande. Aussi, la commune de Megève sollicite une subvention d'un montant de 12 000 euros pour permettre la mise en place de rencontres avec les familles et les partenaires éducatifs. Le conseil municipal est invité à donner mandat à Madame le maire pour déposer le dossier de demande de subvention auprès du REAAP et solliciter les fonds de l'État pour son soutien à la parentalité. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Voilà. Vous avez des observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette délibération validée à l'unanimité. Pôle culture et vie de la cité, animation musicale à la médiathèque, Edith Allard.
Lors de la séance du 30 octobre 2013, la commission des affaires culturelles a donné un avis favorable à la mise en place d'une thématique par période de vacances scolaires pour les animations jeunesse de la médiathèque. Ainsi, les animations des vacances de printemps sont destinées aux bébés. Le spectacle proposé pour les vacances de printemps 2014 est le suivant. Madame Papier, par la compagnie Babel, le samedi 3 mai prochain, C'est un spectacle musical avec clown et manipulation d'objets pour les enfants de 1 à 4 ans. Le coût s'élève à 900 euros TTC. Autre moment fort de l'année, la conférence-concert de jazz organisée par la médiathèque en marge du festival Megève Jazz Contest. Le spectacle proposé cette année est « Les divas du jazz » par l'association Drôle d'idée. Et cette animation sera proposée pour le jeudi 10 juillet avec 4 musiciens professionnels qui jouent en direct. Le coût de ce spectacle s'élève à 1260 euros TTC. Donc le conseil municipal a reçu en annexe les contrats pour se rapportant à ces deux animations. Donc vous êtes invités à approuver les prochaines animations musicales de la médiathèque et à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les contrats nécessaires à l'organisation des animations citées.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci pour cette délibération validée à l'unanimité. Pôle ressources humaines et emploi compétences, document unique d'évaluation des risques et registre obligatoire, Jocelyne Co.
Pour répondre à une exigence réglementaire et dans le but d'améliorer les conditions de travail, la collectivité s'est engagée dans une démarche active de prévention et d'amélioration des conditions de travail en matière d'hygiène et de sécurité. Suite à l'avis favorable du comité technique du 11 mars 2014, il est proposé de mettre à disposition de tous les agents le document unique ainsi que les registres obligatoires suivants : registre santé et sécurité, registre des dangers graves et imminents. Un plan de prévention sera mis en œuvre pour répondre en priorité aux risques intolérables et substantiels et un bilan des actions liées à la prévention sera communiqué annuellement. Le document unique et registre obligatoire, ainsi que l'évaluation des risques des activités, est consultable au secrétariat général de la mairie. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à valider le document unique d'évaluation des risques présentés ainsi que les registres obligatoires.
Je tiens à remercier la municipalité précédente, en l'occurrence Sylviane, pour la mise en place de ce projet d'évaluation des risques et registres obligatoires, qui est un gros travail, mais qui reste indispensable.
Oui, merci Madame le maire. Je voudrais aussi vous dire à quel point je me réjouis que justement ce point soit mené à son terme. Parce qu'on ne doit pas raisonner dans l'immédiat et les missions qui sont confiées aux agents dans une collectivité comme la nôtre sont tellement diverses et variées qu'il est important d'en mesurer aussi les conséquences à long terme. Pour les agents eux-mêmes, bien sûr.
Merci. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Merci pour cette délibération acceptée à l'unanimité. Pôle ressources humaines, emploi et compétences, plan de formation 2014. Jocelyne Co.
Suite aux entretiens professionnels effectués en 2013, le plan de formation 2014 détermine le programme des actions de formation des agents de la collectivité. Il est proposé que le plan de formation 2014 soit annuel. Celui-ci regroupe les formations statutaires, formation d'intégration et de professionnalisation, les formations de perfectionnement, les formations de préparation aux concours et aux examens professionnels, ainsi que les actions liées à l'hygiène et à la sécurité, et les demandes de formation à l'initiative des agents. Tous les besoins sont recensés par pôle. Les objectifs de sa mise en œuvre visent à assurer l'adaptation des agents à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, et de proposer des formations qui participent au développement des compétences individuelles et collectives. Les demandes de formation hors plan de formation devront faire l'objet d'une transmission de devis et programmes de formation pour validation par l'autorité territoriale. Ces devis seront étudiés au cas par cas en 2014 dès réception de ces documents. Alors, en annexe, vous avez la proposition du plan de formation 2014. Et sont listés à la fois les besoins individuels et collectifs. Les formations en interne, en intra et en union de collectivités seront priorisées afin de limiter les coûts, ainsi que les sessions animées par des formateurs en interne. Le covoiturage est fortement encouragé. À partir de 2014, une plateforme de covoiturage sera mise en ligne sur le site du CNFPT. Les lieux et nombre de jours de formation peuvent être amenés à être modifiés suivant la réception et validation des différents devis. Les formations hors CNFPT, dont le pôle RHEC n'a pas reçu de devis, devront faire l'objet d'une demande de devis et plan de formation effectuée par le service concerné à faire valider par la hiérarchie dont celui-ci dépend. Ces formations seront étudiées au cas par cas en 2014 dès réception de ces documents s'ils ne font pas partie du plan de formation. Le montant des frais pédagogiques s'élève à 100 000 euros et le montant des frais pédagogiques au titre du DIF, 10 450 euros. Les priorités 2014. Alors, en premier lieu, les formations obligatoires liées à l'hygiène et à la sécurité est priorisée par le document unique. Deuxièmement, les formations statutaires obligatoires, formations d'intégration et de professionnalisation. Troisièmement, la réalisation des formations en intra et interne. Quatrièmement, les formations non obligatoires, formations de perfectionnement, de préparation au concours et examen de la fonction publique territoriale et relatives à l'apprentissage des savoirs de base. Et cinquièmement, les formations à l'initiative exclusive de l'agent, le droit individuel à la formation, qui est le DIF, la validation des acquis et de l'expérience, VAE, le bilan de compétences et la formation personnelle. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à valider les demandes de formation recensées sur le plan de formation 2014, indiquer que les crédits seront imputés au chapitre 011, article 6184.
Voilà, c'est un gros programme de formation pour nos agents, pour les conforter dans leur poste et puis améliorer la qualité du travail qu'ils peuvent dispenser au sein de la collectivité. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Alors, ressources humaines, emploi et compétences, stage professionnel étudiant, attribution d'une gratification, Jocelyne Co.
Dans le cadre de la convention de stage à établir avec l'école de santé sociale Sud-Est, deux étudiantes seront accueillies en mairie de Megève au sein du pôle famille enfance éducation pour effectuer un stage de formation professionnelle dans le cadre de leurs études. Le premier stage sera accompli sur 10 semaines. Du 15 septembre 2014 au 19 décembre 2014. Le second stage sera accompli sur 28 semaines, du 16 février 2015 au 20 décembre 2015. Considérant les durées des stages, il est proposé de leur octroyer une gratification dont le montant reste à déterminer. Le conseil municipal est invité à décider d'attribuer aux étudiantes une gratification d'un montant de 436,05 € brut mensuel pour les périodes de stage effectuées du 15 septembre 2014 au 19 décembre 2014 et du 16 février 2015 au 20 décembre 2015 dans le cadre de leur stage professionnel, sous réserve de la modification du plafond horaire de la Sécurité sociale en 2014-2015. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités correspondantes et indiquer que les crédits seront imputés sur le chapitre 12, article 64-118.
Merci. Il est toujours important de faire participer des jeunes dans des stages, qui sont pour nous aussi une opportunité d'avoir du personnel ponctuellement, et puis donner aussi leur chance à ces jeunes qui sont sur le marché du travail. Donc, qui est pour ? Qui est contre et qui s'abstient. Merci pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Recrutement gardien de police municipale et responsable opérationnel, espace public, remboursement de frais de déplacement, Jocelyne Co.
Par délibération du 8 décembre 2008, le conseil municipal définissait comme suit le remboursement des frais engagés par les candidats dans le cadre d'un recrutement. Le remboursement, quel que soit le mode de déplacement, doit être basé sur le tarif SNCF deuxième classe, ainsi que le tarif d'un ticket d'autocar pour effectuer le déplacement depuis la gare jusqu'au lieu de convocation, sous réserve que le candidat ne perçoive aucun remboursement d'aucun organisme, exemple la CEDIC, employeur privé ou public, autre que la mairie de Megève. Le candidat retenu ne sera pas remboursé de ses frais. Les frais de nuitée et de repas ne sont pas à la charge de la commune. Aussi, le conseil municipal est-il invité à procéder au remboursement des frais engagés par les candidats convoqués à un entretien selon les modalités ci-dessous. Alors, pour un gardien de police municipale qui a eu un entretien le 30 janvier 2014, 27,20 €, il y a eu un aller Saint-Julien en Genevois-Megève pour 13,60 € et un retour Megève-Saint-Julien en Genevois, 13,60 €, donc ce qui fait un total de 27,20 €. Et le deuxième entretien qui a eu lieu le 4 mars 2014 pour un responsable opérationnel espace public pour un montant total de 65,40 € concernant un aller Aigueblanche-Megève de 32,70 € et un retour Megève-Aigueblanche de 32,70 €. Le conseil municipal est invité à donner son accord pour le remboursement des frais engagés par M. Gilles Fray le 30 janvier 2014 dans le cadre du recrutement d'un gardien de police municipal et de M. Jocelyn Durand le 4 mars 2014 dans le cadre du recrutement d'un responsable opérationnel espace public, étant rappelé que la prise en charge des frais de déplacement par la commune seront remboursés sous réserve que les candidats ne perçoivent aucun remboursement d'aucun organisme autre que la mairie de Megève, et indiquer que les crédits seront imputés sur le chapitre 011, article 6251.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Dernière délibération, pôle ressources humaines, emploi et compétences, tableau des emplois, Jocelyne Co.
Il est rappelé que les effectifs nécessaires au fonctionnement des services communaux font l'objet d'un état annexé au budget primitif voté par le conseil municipal, tableau régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution des besoins recensés, ainsi que des transformations résultant d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite à des concours, de nomination en qualité de stagiaire, ainsi que de tout recrutement en vue de pourvoir toute vacance de poste permanent. Le conseil municipal est invité à créer le poste ci-dessous au 1er mai 2014 au tableau des emplois dans le cadre d'un recrutement pour le pôle suivant, le pôle bâti, et ceci c'est suite à une mutation interne de Charles Morand qui est passé du palais des sports au service technique, hein, je crois, enfin au pôle, hein, voilà. Alors l'emploi, c'est référent opérationnel bâti, travaux et maintenance externalisés, bâti 8, à temps complet, en tant qu'agent de maîtrise territoriale catégorie C, et son grade est agent de maîtrise principal. L'indice de rémunération selon situation statutaire, temps 35 heures, et si c'est un agent contractuel, selon formation, qualification et expérience acquise. Deuxièmement, de modifier le poste suivant suite à réussite concours au 1er mai 2014. Alors, l'ancien grade en tant que titulaire, agent de bibliothèque multimédia et adulte au pôle culture, le grade adjoint du patrimoine deuxième classe qui passerait en adjoint du patrimoine première classe. Et troisièmement, supprimer les postes suivants au 1er mai 2014. Un poste de plâtrier plaquiste au pôle bâti, grade adjoint technique deuxième classe en temps complet, et une assistante marché public au grade rédacteur territorial temps complet.
Voilà, qui est pour les mutations de personnel, qui est contre et qui s'abstient. Merci pour adopter cette délibération à l'unanimité. Je me permets de vous rappeler la date du prochain conseil municipal qui sera le lundi 26 mai à 19h30. Et à partir du mois de juin, les conseils municipaux passeront le mardi pour permettre d'être présents sur les réunions de la communauté de communes qui sont fixées tous les lundis à un rythme de 15 jours. Donc il faut être présent pour défendre notre cause dans cette structure. Donc nous déplacerons les conseils municipaux au mardi et ce sera donc mardi 24 juin pour le deuxième, avant la fin de...
Je voudrais juste revenir sur le remboursement des frais des gens qu'on est censé éventuellement recevoir pour la candidature. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est...
C'est pas une obligation, mais c'est...
Ça se fait,
voilà.
D'accord. Il y a un montant maximum ou...
Sur la base des tarifs SNCF.
D'accord, mais il peut venir de la France entière, le gars.
Oui.
Ah oui.
Si je peux rajouter quelque chose, je dirais que à qualification égale, on privilégie toujours les recrutements proches ou avec des gens qui ont des logements à qualification égale.
Merci pour votre présence et participation à ce conseil municipal et bonne soirée à tout le monde.